France Musique. Musique Matin, le 7-9 de France Musique, Jean-Baptiste Urbain.
Bonjour Arnaud Cachia.
Oui, bonjour.
Vous êtes professeur de neurosciences cognitives à l'Université Paris-Cité, membre de l'Institut universitaire de France. Et après-demain, samedi, à Marennes, en Charente-Maritime, vous donnez une conférence. C'est dans le cadre du 3e festival scientifique Cerveau-Odyssée. Il y a cette année pour thème ce festival, la musique et le cerveau. Le titre de votre conférence, Arnaud Cachia, c'est l'effet Mozart et autres mythes sur le cerveau. Alors d'abord, quel serait donc cet effet Mozart tel qu'il a été en tout cas décrit par ceux qui y croient et qui l'ont conceptualisé?
Alors en fait, ça vient d'une étude qui a été réalisée par des chercheurs en Californie au début des années 90, qui ont fait écouter la musique de Mozart à une trentaine d'étudiants, et ensuite ils leur ont fait passer des tests classiques pour mesurer l'intelligence, donc des tests de QI, et ils se sont rendus compte que les scores de QI étaient un petit peu élevés par rapport aux étudiants qui avaient écouté de la musique de Mozart avant de faire le test par rapport aux autres. Alors on peut se dire, c'est formidable, écouter Mozart en plus intelligent, si ce n'est que l'histoire ne s'arrête pas là. C'est-à-dire qu'en fait, cet effet, il est de très courte durée, à peu près 10 minutes. Ensuite, il disparaît. Plusieurs études ont réessayé de mettre en évidence cet effet et n'ont pas réussi. Et surtout, une étude quelques années après, ont essayé de faire à peu près la même étude chez des enfants, mais plutôt que de leur faire écouter Mozart, ils ont fait écouter Blur, le groupe de musique de rock dans les années 90. Et les enfants, en fait, avaient des meilleurs scores après avoir écouté Blur qu'écouter Mozart. Alors au final, qu'est-ce qu'on peut en retirer de toutes ces études? Mais au final, il y a peut-être un petit effet, mais qui n'est pas sur l'intelligence. Vraisemblablement, l'effet qui est observé, c'est parce que le fait d'écouter de la musique, classique en particulier, mais pas que, fait baisser le stress. Et le stress, on le sait, a des effets sur le fonctionnement du cerveau, notamment la partie en avant du cerveau qui s'appelle le cortex préfrontal. Et quand ce cortex préfrontal fonctionne mieux, eh bien, on réussit plus facilement les tâches du QI. Ce qui ne veut pas dire qu'on est plus intelligent, c'est juste qu'on est moins stressé, on est plus concentré et donc on réalise mieux la tâche qu'on doit faire.
Pas d'effet Mozart sur lui, puisque c'est Mozart, il n'a pas écouté sa propre musique, il l'a composée, c'est sa première symphonie, c'est à l'âge de 8 ans. Voici un petit extrait, on se retrouve juste après. Le final de la première symphonie composée à l'âge de 8 ans par Mozart avec Il Pomodoro, dirigé par Maxime Yemelyanichev, qui sera notre invité dans une heure. Notre invité là, maintenant, à 7h36. C'est Arnaud Cachia, professeur de neurosciences cognitives à l'Université Paris-Cité. Vous donnez après-demain, samedi, à Marennes, en Charente-Maritime, une conférence dans le cadre du 3e festival scientifique Cerveau-Odyssée, autour donc cet effet Mozart supposé et autres mythes du cerveau. Alors, au-delà de ce prétendu effet Mozart dont vous venez de nous parler, on voit de nombreux articles régulièrement qui évoque les liens entre la musique et le cerveau, c'est-à-dire le thème de ce festival. C'est bien fait, il y en a malgré tout, et quels sont-ils? Vous avez parlé du stress.
Alors effectivement, il y a un effet sur le stress. C'est un petit peu la base de la musicothérapie qui fonctionne bien, notamment chez les patients, par exemple, déprimés. Le fait d'écouter de la musique, ça détend, ça fait baisser le stress, ça fait baisser l'anxiété. Il y a même des effets qui ont été rapportés sur l'épilepsie, qui fait baisser le niveau d'épilepsie chez certains patients. Ensuite, il y a plusieurs études qui ont montré que la pratique, non pas uniquement l'écoute de musique, mais la pratique musicale pouvait avoir des effets sur le cerveau. Alors, par exemple, le fait de faire beaucoup de piano, le fait de faire beaucoup de violon, comme toute activité répétée, en fait, va solliciter certaines régions du cerveau. Donc, en l'occurrence, par exemple, les régions motrices. Pour faire du piano, du violon, on a besoin d'avoir une activité motrice assez subtile. Il y a des effets aussi sur les régions perceptives auditives, c'est-à-dire le fait d'écouter, de faire beaucoup de musique fait qu'on a une oreille un petit peu plus précise. Alors toute la question ensuite, c'est de savoir est-ce que ces compétences vont se transférer dans d'autres domaines. C'est la question très importante du transfert dans le domaine de l'éducation. Est-ce que le fait de faire une pratique musicale va avoir des effets sur la réussite scolaire, sur le fait de faire la musique en groupe, par exemple en orchestre, est-ce que ça améliore les capacités d'empathie? Et alors là, les résultats sont un peu plus nuancés parce que c'est toujours très difficile d'avoir des effets de transfert. Et donc, s'il y a des effets, ils sont vraiment tout petits.
Dans une émission récente que nous avons faite avec le neurologue Pierre Lemarquis, il affirmait que la musique favorise l'apprentissage du langage chez les très jeunes enfants. Vous êtes d'accord ?
Alors, la musique et le langage partagent les mêmes réseaux cérébraux. Et donc, une fois encore, si on étudie, enfin si on écoute de la musique, si on pratique de la musique, eh bien, on va solliciter ces régions communes au langage et à la musique. Et donc, on peut avoir des petits effets, mais si les effets sont présents, ils sont vraiment très faibles.
Dans votre conférence, vous allez évoquer d'autres mythes sur le cerveau sans les détailler. Quels sont-ils, en tout cas quelques-uns d'entre eux?
Bon, il y en a plusieurs. Il y a beaucoup de mythes sur le cerveau qui circulent. Par exemple, le cerveau gauche et le cerveau droit. Le cerveau gauche qui serait plus analytique, le cerveau droit qui serait plus créatif. On sait que le cerveau fonctionne d'une manière beaucoup plus intégrée et qu'il n'y a pas une partie du cerveau qui fonctionne et on n'a pas des personnes qui sont plus de l'un ou de l'autre. La question autour des différences de cerveau entre les hommes et les femmes. Qu'est-ce qu'il y a comme autre... La question des 3 ans. Tout se joue avant 3 ans. En fait, le cerveau se développe jusqu'à au moins 25 ans et donc c'est pas les 1000 premiers jours mais ce serait plutôt les 1000 premières semaines qui seraient importantes. Donc voilà, il y a plein de mythes. Alors dans ces mythes en fait tout n'est pas faux, c'est comme pour l'effet Mozart, tout n'est pas faux mais c'est un petit peu plus compliqué que ce qu'on pourrait croire au premier abord.
La suite, c'est samedi après-midi à Marennes, en Charente-Maritime, votre conférence dans le cadre du festival Cerveau-Odyssée, qui a pour thème donc cette année musique et cerveau. Merci beaucoup Arnaud Cachia.
Merci beaucoup à vous. Au revoir.
Au revoir.
À réécouter sur francemusique.fr.